Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai dit bonjour, hein, vous me répondez bon. Bon, c'est bien. Vous êtes donc vivant, ça me fait plaisir. Et pour rebondir sur ce que Mathieu disait tout à l'heure, en regardant cette photo, vous avez remarqué qu'il y a un chemin sur lequel marche Jésus. Et ce chemin n'est pas large. Le chemin large mène vers la perdition, nous dit la parole de Dieu, hein. Mais ce chemin est un chemin étroit. Et nous sommes sur ce chemin étroit, et Jésus, le bon berger, nous guide jour après jour sur ce chemin. J'aimerais introduire ces moments par ce verset qui se trouve dans Jacques chapitre, d'abord on va parler de Jacques un peu plus profondément. Jacques chapitre 1er verset 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole, et la suite vous la connaissez, mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à écouter, et ce matin nous sommes là, nous allons écouter la parole, mais qu'est-ce que nous allons faire de cette parole quand nous sortirons de ce lieu? Est-ce que nous allons obéir? Est-ce que nous allons dire, Seigneur, je veux aligner mes pensées sur les tiennes? Et on trouve ça dans l'Ancien Testament, je veux aligner mes pensées sur les pensées de Dieu, ma volonté sur la volonté de Dieu. Et la fois dernière, lorsque j'avais partagé la parole, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a parlé d'un sujet particulier, et ce sujet nous parlait de la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cela. Alors si vous ne vous en souvenez pas, ou si vous n'étiez pas là, bien vous allez rechercher le message pour l'écouter. Et moi je voudrais faire la suite aujourd'hui, mais je ne voudrais pas perdre trop de temps pour résumer ce que nous avons dit, parce que vous pouvez aller le chercher. Mais simplement, je vous rappelais le verset principal de ce partage, qui se trouve encore dans Jacques, chapitre 4 et verset 8. Il fait cette déclaration, Jacques, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Je répète, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Je le personnalise un peu plus. Et ça comprend, on l'a chanté ce matin, l'amour pour Dieu, mais en même temps, la crainte que l'on doit éprouver envers le Seigneur, pour nous garder sur cette route qui mène vers la vie éternelle. Paul dira, j'ai achevé ma course, je cours dans la carrière qui m'est ouverte, oubliant ce qui est en arrière, je porte mes regards vers ce qui est en avant. Et on sait que le chemin de Dieu, donc pour reprendre un peu l'image que nous avons vue tout à l'heure, là il s'agit de fruits maintenant, hein, de bourgeons, mais l'image de tout à l'heure c'était ce chemin, et Dieu est sur ce chemin étroit. Et le Seigneur parle d'un sentier, d'un chemin après le salut, il parle d'une porte, et d'une porte sur le chemin, il y a un chemin après la porte. Et la porte c'est l'entrée de la nouvelle naissance, et je pense que nous qui sommes là ce matin nous pouvons dire, je suis sauvé. Amen. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu peux dire, je suis sauvé? Ça, c'est magnifique. Et donc, tu es sur cette marche, dans cette marche avec Dieu. Mais combien savent qu'il y a, et on en a parlé la dernière fois, très brièvement, c'était la fin du message, il y a un chemin, mais de chaque côté, il y a un fossé. Et beaucoup savent qu'il y a ce premier fossé qui s'appelle, et moi je l'ai vécu quand j'étais gamin, le fossé du légalisme. Le légalisme, c'est lorsqu'on sait, on essaye de plaire à Dieu par des interventions extérieures. On essaye de plaire à Dieu, on essaye de lui faire plaisir, d'être le mieux possible, et on essaye d'arranger notre vie pour que le Seigneur s'intéresse à nous. Ça, c'est le légalisme. Et ce n'est pas alimenté par le cœur, c'est plus alimenté par des lois restrictives. Et combien savent que le légalisme, c'est quelque chose de terrible qui peut nous écraser? Et vous savez, l'Église, au milieu du 20e siècle, était marquée par le légalisme. Moi, j'ai été élevé dans un milieu assez étroit, assez austère, légaliste. Et je me rappelle mes parents qui me disaient, quand j'étais tout gamin, « Tu sais, Dieu te voit. » Rien que ça, ça me fichait une trouille, Parce que je me disais, quand je, si je fais quelque chose, une bêtise, Dieu me voit, mais derrière ça, il y a quoi? Il y a la punition qui va tomber. Et on m'a élevé dans cette crainte de Dieu qui était malsaine, mais on m'a fait grandir dans la présence d'un Dieu qui pour moi était un Dieu redoutable, un Dieu qui pouvait se mettre en colère, un Dieu qui pouvait me punir, un père fouettard en fait. Et ça, c'était le témoignage de ce qu'on pouvait vivre dans nos assemblées. Et je me souviens que beaucoup de gens vivaient sous un joug d'esclavage, ils vivaient dans le légalisme. Et il y a un homme de Dieu qui, un jour, a eu cette grande révélation que Dieu était un Dieu qui était bon, et tout un souffle charismatique a balayé la terre avec cette idée que Dieu était bon. Et nous avons eu cette révélation que Dieu est un papa, il nous aime passionnément, et ici on le répète souvent, notre papa céleste nous aime, et ça c'est ce que l'amour de Dieu a fait envers chacun de nous. On l'a chanté ce matin, vous l'avez remarqué, on a chanté l'amour de Dieu. Mais vous savez, entre le légalisme et l'amour de Dieu, Paul va nous avertir en disant, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on va faire n'importe quoi, et il ajoutera, loin de là. Vous pouvez remarquer cela dans Romains chapitre 6, ça commence comme ça. Parce qu'il y a la grâce, est-ce qu'on va faire n'importe quoi? Non, loin de là. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on est appelé à faire n'importe quoi. Il nous a délivrés du ravin du légalisme, et souvent lorsque nous sommes sortis, nous voulons tellement nous éloigner de ce ravin du légalisme qu'on est allé de l'autre côté et nous sommes tombés dans un autre fossé. Et ce fossé, celui-là s'appelle le ravin de la licence, cet esprit où il n'y a aucune limite, aucune loi, un style de vie charnel, un style de vie désobéissant. Vous êtes d'accord avec moi? On tombe d'une extrême dans l'autre. Mais le Seigneur est toujours le même. Dieu nous donne une autre force pour sortir de ce ravin. Et cette force s'appelle la crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, possédant la crainte du Seigneur, un homme s'éloignera du péché. Pas par l'amour de Dieu, mais il s'éloignera du péché par crainte de l'Éternel. Et c'est ainsi que nous développons, nous rendons parfaite la sainteté de Dieu en nous. Nous avons reçu cette semaine une fille qui faisait partie de notre église il y a longtemps. Elle est venue nous visiter en Alsace et elle nous a visités. Elle est venue avec, vous connaissez Lydie Séris, et elles sont venues toutes deux à la maison. Et Fabienne nous rappelait simplement cette histoire parce que je parlais un petit peu du sujet que j'allais parler dimanche. Et elle me disait, mais un homme de Dieu est allé visiter un télévangéliste qui était emprisonné. Il était en prison et cet homme est allé le voir et lui a posé cette question. Mais comment se fait-il que toi, homme de Dieu, tu sois tombé si bas et que tu sois maintenant en prison? Pourquoi cela? Et l'homme de Dieu qui était en prison lui a rétorqué ceci. Je n'avais pas de crainte de Dieu. Il y en a des millions dans l'église en Amérique qui sont comme moi. Ils aiment Jésus. Ils l'appellent Seigneur et Sauveur, mais ils ne craignent pas Dieu. Il leur manque la crainte de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Je voudrais vous rassurer, c'est pas avoir peur de Dieu, pas du tout. Parce que mon papa, c'est quelqu'un de puissant, de merveilleux. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est celui qui nous a créés. C'est celui qui a fait de nous des créatures si merveilleuses. Amen. On est ces créatures. Et ce qu'il veut, c'est que ces créatures s'approchent de lui pour le révérer, pour l'admirer, pour lui dire combien tu es beau. Et on le lit dans les psaumes. David était un adorateur. Il disait que les mots qu'il prononçait étaient insuffisants. Seigneur, que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain, dira-t-il. Parce que tellement il voyait ce Dieu merveilleux, beau, splendide, puissant, glorieux, victorieux, quelqu'un qu'on avait envie de suivre. Et ce nom, c'est l'Éternel des armées. Celui qui peut tout. celui qui peut renverser des montagnes, celui qui peut déplacer des mers, celui qui peut, qui a créé les étoiles, qui a créé l'univers. Et lorsque Moïse a amené le peuple au Sinaï à la rencontre de Dieu, ils se sont sauvés en courant et Moïse a fait cette déclaration. N'ayez pas peur parce que Dieu est venu pour vous tester. Il était dans la montagne. Il y avait cette fumée qui se dégageait, il y avait ce bruit de tonnerre, sa voix retentissante. Mais quand le peuple de Dieu a entendu la voix tonitruante de Dieu, ils ont tous eu peur et ils n'avaient qu'une envie, c'est de se sauver loin de cela. Mais Dieu était en train de les éprouver pour savoir si dans leur cœur ils avaient une crainte de son nom. Et il était là, il s'est montré dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Mais quel est le test? C'est déterminer la crainte de lui, s'il y a une crainte de lui en vous. Et ça semble être une grande contradiction, mais ça ne l'est pas. Moïse fait une référence entre avoir peur de Dieu et avoir la crainte de Dieu. Et je pense que ce matin, vous faites la différence entre avoir peur ou craindre. Craindre, c'est honorer, respecter, faire en sorte que, en fait, Seigneur, par ta grâce, je puisse vraiment satisfaire ton nom et te plaire. Et j'aime beaucoup dans la prière que le Seigneur nous a laissée comme modèle, il y a notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire chaque fois que je pêche, chaque fois que je me détourne de la parole de Dieu, chaque fois que je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui attristent le Saint-Esprit, le nom du Seigneur est sali. Et ce nom est sali à cause de mon péché. Il est sali à cause de mes mauvaises pensées, à cause de tout ce que je peux vivre. Mais cette prière dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit redoré, que ton nom redevienne ce nom puissant et victorieux dans nos vies. Et la personne qui a peur de Dieu, elle a peur de la présence de Dieu, elle a peur de la sainteté de Dieu, et elle a quelque chose peut-être à cacher. Et vous avez remarqué peut-être vous-même, en n'étant pas bien dans votre peau, vous êtes approché d'une personne dans l'église qui rayonnait de la gloire de Dieu, qui avait un visage rayonnant, et vous avez eu peur de vous approcher de cette personne parce qu'elle dégageait quelque chose de puissant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé cela. Moi oui, mais vous non. Peut-être vous êtes voilà, au-dessus. Mais on sent quand quelqu'un marche avec Dieu, il y a cette marque de Dieu sur cette personne, il y a la gloire de Dieu qui est là, et puis peut-être que nous on se sent tout petit, pécheur, sale, mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans cet état. Il ne veut pas qu'on fuit loin de sa face. Vous savez, Caïn s'est sauvé de la présence de Dieu. Dans Genèse 4, 16, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Et une version un peu plus moderne que la version classique que l'on connaît, Caïn sortit de la présence de l'Éternel. C'est grave comme verset. Il sortit de la présence de l'Éternel. Il avait peut-être quelque chose à cacher, mais la personne qui craint Dieu n'a rien à cacher. Elle a peur d'être loin de Dieu simplement. La crainte de l'Éternel, c'est l'honorer, c'est trembler à sa parole. Cela veut dire que tu vas obéir à cette parole, même si ça te fait mal. Même si tu n'en vois pas le bénéfice instantanément, jusqu'à ce que tout soit complété. On va aller au psaume 25, verset 14, où il est dit, et ça c'est un secret, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ça change. Il n'est pas question de la peur de Dieu. Il est question de l'amitié de l'Éternel. Et je vous pose une question. Combien d'entre vous avez des secrets dans votre vie? Ou est-ce que je devrais prier pour que vous n'avez pas levé la main parce qu'il y a un esprit de mensonge qui vous anime ce matin? Ou suis-je le seul à avoir des secrets? On a parfois des choses que l'on garde au fond de soi, oui ou non? Mais est-ce que ces secrets, ces bons secrets sont là? Alors la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est la suivante. Avec qui partagez-vous vos secrets? Est-ce que vous allez les partager à n'importe qui? Non, moi j'aurais peur, en partageant mes secrets à n'importe qui, que ce que je dis tombe dans l'oreille de quelqu'un qui a envie de le répéter à d'autres. Vous savez, il y a des personnes qui entendent Et quand elles entendent, elles ont tellement envie de partager avec d'autres personnes en disant, tu sais, elle s'approche doucement, je vais te confier quelque chose, mais surtout ne le répète à personne. Vous avez entendu ce genre de choses. Et puis, voilà, et ce que vous avez partagé est divulgué, et puis ça fait le tour de l'Église, ou le tour de ton entourage. On n'a pas envie de partager ses secrets, mais Dieu dit, je partage mes secrets avec mes amis intimes et avec ceux qui sont proches de moi. Mes amis proches, ce sont ceux qui me craignent. Et dans la traduction anglaise, ce verset se traduit de cette façon, l'amitié avec le Seigneur est réservée à ceux qui le craignent. Et tu peux me dire ceci, Dieu n'est pas l'ami de tous. Il n'est pas l'ami de tous dans l'Église, mes amis. Il y a deux hommes dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qui ont été amis de Dieu. Et je voudrais partager là-dessus pour vous aider à comprendre quelle est la démarche que je veux faire auprès de vous ce matin. Et je crois qu'il y a des gens qui étaient l'ami de Dieu. David était certainement un ami de Dieu, j'en suis certain. Esther, Daniel, Joseph et bien d'autres étaient amis de Dieu. Mais je voudrais vous parler de deux personnages principalement. Le premier, c'est Abraham. Abraham, pourquoi est-il appelé l'ami de Dieu ? Parce que, tout simplement, quand il était âgé, Dieu vient vers lui un soir et lui dit, « Abraham, je veux que tu m'offres ton fils Isaac en sacrifice. Tu vas faire un voyage de 3 jours et tu vas le mettre à mort comme sacrifice devant moi. » Alors, Dieu ne lui a pas dit, « Si tu fais cela, tu auras la récompense de l'Alliance. » Non. Dieu lui a donné aucune raison, sauf « vas-y et fais-le ». Alors je ne sais pas si vous étiez à la place d'Abraham, quelle aurait été votre réaction, mais il faut que vous compreniez qu'il n'y a rien sur la terre, ni personne, qu'Abraham aime le plus sur la terre que son fils Isaac. Et ça aurait été plus facile s'il avait entendu « va te tuer toi-même, Abraham ». Mais tout ce que la Bible nous dit, très tôt le matin, Abraham se met sur le chemin. Et j'entends quelqu'un me dire, le Seigneur me parle depuis plusieurs mois, ça c'est un manque de crainte de l'Éternel. Il ne trempe pas sa parole. Dieu lui donne un voyage de 3 jours pour arriver au lieu du sacrifice. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'au cas où il changerait d'avis, Dieu pouvait lui envoyer un ange pour le délivrer de cette situation. C'était facile. Quand vous avez entendu la voix de Dieu la nuit précédente, mais 2 jours et demi plus tard, vous avez Abraham qui voit la montagne, qui voit le lieu où il va aller précisément, qui voit l'endroit où le sacrifice va être offert. Il va vers cette montagne et Dieu lui dit, tu vas offrir ton fils, tu vas offrir ce que tu as de plus précieux. Et Abraham tremblait à sa parole. Et donc il respecte cela. Il va vers la montagne, il bâtit un autel, il attache son fils, il prend son couteau, et là il est prêt à le planter ou à égorger son fils sur le... Et tout à coup, l'ange de l'Éternel intervient, le couteau est enlevé. Abraham, stop, arrête, maintenant je sais que tu crains Dieu. Et comment l'ange le savait-il ? Tout simplement, premièrement, Abraham a obéi. Il a obéi instantanément, il a obéi jusqu'à l'accomplissement, il a obéi pourtant ça faisait mal, il a obéi pourtant il ne comprenait pas, il a obéi, il ne voyait pas les bénéfices, mais il a obéi. Et donc Abraham repose son couteau, et au moment où il repose son couteau, qu'est-ce qu'il voit ? Un animal qui est pris par les cornes dans un buisson, et ça c'était le sacrifice, et c'est là qu'Abraham à parler de Dieu dans ces termes, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins. Dieu révèle une facette de sa personnalité, et personne n'avait vu cette facette auparavant, mais Abraham devient l'ami de Dieu. Dieu révèle une facette de cette personnalité. Abraham est son ami, mais regardez cette dynamique. Lorsque, un peu plus tard, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est dit dans la parole de Dieu, devrions-nous faire ce que nous pensons faire à Sodome et Gomorre, sans parler de cela à notre ami Abraham ? Et Abraham, on est en train de penser qu'il va... voilà, il est là. Alors on l'appelle, Abraham, tu sais, on va faire sauter 2 villes. On va faire sauter Sodome et Gomorre. Alors Abraham va commencer à plaider en disant « Mais Seigneur, s'il y avait dans cette ville 50 justes, est-ce que pour cela, tu n'épargnerais pas la ville ?» Dieu lui dit « Pour 50 justes, s'il y a 50 justes, j'épargnerai la ville. » Vous savez, Abraham pensait à son neveu Lot, hein, il voulait le sauver. « S'il y avait 40 justes, est-ce que tu détruirais la ville ?» Pour 40 justes, il y en avait, je ne la détruirais pas. Puis il descend, il arrive à 10. Et pour 10 justes, est-ce que tu détruirais la ville ? Pour 10 justes, je ne la détruirais pas. Je voudrais attirer votre attention sur deux personnages. Le premier, c'est Lot. Et le deuxième, c'est Abraham. Lot ne savait pas que 24 heures après, la ville serait détruite. Il était en danger de mort. Il ne connaissait pas les plans de Dieu. Il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas ses plans. Abraham, lui, connaissait le cœur de Dieu, connaissait les secrets de Dieu. Et Dieu n'a pas caché ce qu'il allait faire à Abraham. Alors, c'est vrai que pour ces villes, s'il y avait des justes, il ne les ferait pas détruire. Alors, merci Seigneur pour cet exemple. Voici deux hommes qui sont justes. Abraham était un homme juste. Lot aussi est considéré comme un homme juste. Mais un homme juste sait ce que Dieu va faire avant qu'il le fasse. Et un Dieu qui a décidé de détruire ces villes. L'autre juste ne sait pas ce qui va arriver. L'un justifié est l'ami de Dieu, mais l'autre n'est pas l'ami de Dieu. L'un connaît les secrets de Dieu, mais l'autre ne les connaît pas. L'un craint le Seigneur, mais l'autre n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Est-ce que vous voyez la différence entre Lot et Abraham ? Est-ce que vous suivez mon raisonnement ce matin ? Alors j'aimerais parler d'un autre personnage, et ce personnage, vous le connaissez par cœur, c'est Moïse. Moïse, que l'on appelle dans la Bible l'ami de Dieu. Les psaumes nous disent que Moïse connaissait les voies de Dieu, et Israël ne connaissait pas ses actions. Israël connaissait Dieu par comment il répondait à leurs prières. Vous savez combien il y a de chrétiens dans l'église, avec un grand E, hein, c'est pas l'église Josué, hein, je parle de l'église en général, sinon vous allez me lapider en sortant. Vous savez combien il y a de chrétiens dans l'église aujourd'hui, dans leur relation avec Dieu, qui est limitée à comment Dieu répond à leurs prières. Ma fille était malade, on a prié Dieu, et elle est guérie. On a eu un problème grave au travail, on a prié et il y a eu un exaucement. On a eu un problème grave financièrement, j'ai semé une semence financière et Dieu m'a béni. Moïse connaissait bien des fois ce que Dieu s'apprêtait à faire avant qu'il les fasse. Et par deux fois, vous le lirez dans la Bible, Moïse a changé l'idée de Dieu, le plan qu'il avait conçu en lui-même, et il est même dit dans la parole de Dieu que Dieu se repentit du mal qu'il avait l'intention de faire. Moïse avait comme influencé Dieu. Pourquoi il a pu avoir cette pression sur lui ? Moïse était l'ami de Dieu. Dieu lui parlait comme on parle à un ami, de bouche à oreille. Et il y avait ce dialogue, pas simplement Moïse qui parlait à Dieu, mais Dieu parlait à Moïse. Et voici Moïse qui est juste, et voici Israël qui est aussi sauvé, sorti d'Égypte, sorti du monde. Mais Moïse, lui, connaît les secrets. Laissez-moi vous parler de ce secret dans le Nouveau Testament, et je vais terminer avec ceci, Jean 15:15, où il est dit, vous connaissez ce passage par cœur, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Repensez bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous partageriez votre cœur avec n'importe qui ? Non. Vous allez partager votre cœur avec une personne en qui vous avez entièrement confiance, oui ou non ? Eh bien, c'est ce que Jésus est en train de dire, en train de parler. Jésus parle aux 11 qui sont restés fidèles. Je ne vous appellerai plus serviteur. Et le fait que Dieu a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, veut dire qu'à un certain moment, ils étaient vus comme des serviteurs. Ils ont été des serviteurs. Combien d'entre vous savez que Dieu n'aime pas les situations comme celle d'Ananias et Saphira dont on a parlé la dernière fois ? Et c'est vrai que je vous garde au niveau de serviteur afin de vous protéger, dira Dieu. Témoignage de son meilleur ami qui l'a trahi, c'est ce que Dieu dit ici, je vous garde à un niveau de serviteur jusqu'à ce que vous soyez vraiment établi dans la crainte du Seigneur. Et Dieu dit, une fois que vous êtes établi dans cette crainte, je peux partager mon cœur parce que vous me craignez, pas avec familiarité, sans révérence, comme Ananias et Saphira, mais vous craignez mon nom, et là je peux vous partager mon cœur et vous dévoiler mes secrets. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous partager maintenant? Voyez la différence entre quelqu'un qui est serviteur mais qui ne connaît pas les intentions de Dieu, qui ne connaît pas la direction que Dieu va prendre, mais quelqu'un qui passe du temps dans la communion avec Dieu, quelqu'un qui est un adorateur en esprit et en vérité, qui aime la parole de Dieu, qui s'en délecte jour après jour, qui la fouille, qui l'aime, qui... Alléluia! Et quelqu'un qui, lui, passe, bon, il a sa petite vie religieuse, il vient au culte le dimanche matin, il chante des chansons pour Dieu, et puis il s'en revient comme il est parti. Les voies de Dieu, et ceci est maintenant le désir, le décret universel de Dieu, êtes-vous prêts? Le verset 14 dit, vous êtes mes amis si, et ça c'est la condition, vous n'expérimentez pas ceci à moins que vous le fassiez. Si vous faites tout ce que je vous commande, tremblez à sa parole, et la crainte de l'Éternel, c'est cela. Jésus dit, dans l'Église, tous ne sont pas mes amis intimes, mais il désire passionnément que tout le monde dans l'Église devienne son ami intime. Mais vous, est-ce que vous voulez déterminer le niveau de relation que vous voulez avoir avec Dieu, avec Dieu? Et je répète ce verset encore ce matin, approchez-vous de lui, et il s'approchera de vous. Et je suis en train en ce moment de penser à une chose, mes amis. C'est que ma place dans l'église locale, parce que nous sommes un corps, oui ou non? Nous sommes le corps de Christ local, oui ou non? Christ est la tête, et nous sommes les membres, chacun pour notre part. Est-ce que parmi nous, il y a des grands qui se distinguent des autres? Ma réponse est non. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de petits, mais il y a des enfants de Dieu à qui Dieu a donné quelque chose à accomplir sur cette terre. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que nous les pratiquions. Alors certains, par le Saint-Esprit, sont dotés de dons, il y a des ministères. Mais ces dons et ministères ne sont pas faits pour que des gens se croient supérieurs aux autres. Ils sont faits pour équiper l'Église, pour que l'Église puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse marcher dans les voies du Seigneur et dans la crainte du Seigneur, et qu'elle puisse grandir en maturité, en vue de l'œuvre du ministère. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu, et nous sommes tous des membres pour notre part dans le corps de Christ. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que dans notre corps, il y a des membres qui sont peut-être plus importants que d'autres, dans le sens que si on les retirait de notre corps, on ne vivrait plus. Mais en tout cas, même le plus petit membre, si on le retire dans notre corps, il a une fonction dans notre corps, et il aide les autres membres de ce corps à fonctionner. Ils sont tous dépendants les uns des autres. Mais je voudrais dire ceci, mes amis. Ma tenue devant Dieu va affecter le corps de Christ tout entier. Mon éloignement de Dieu, ma tiédeur spirituelle, va affecter aussi le corps tout entier, local, dont Christ est la tête. Et c'est important que nous le comprenions. Parce que souvent, nous voyons un troupeau, nous voyons des gens, on voit des brebis comme sur le chemin là. On voit un troupeau qui est là et qui vient chaque dimanche. Mais quand on part de ce lieu, on est encore l'Église. Même si on est éparpillé dans beaucoup d'endroits de la région, même si on n'appartient pas au même village, Ici, on est rassemblés comme un corps de Christ local, mais quand on part, est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est le bâtiment? Ou est-ce que l'Église, c'est nous? C'est nous. Ça veut dire que ce que je vis au quotidien affecte le corps de Christ local, a une incidence sur le corps de Christ local. Et je ne vais pas trop développer aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment, mais je mets l'eau à la bouche pour la prochaine fois. Je voudrais vous parler de certains domaines. Il y a par exemple le peuple d'Israël qui sort du Jourdain, qui passe de l'autre côté. Il y a des territoires à conquérir. Quelle est la première ville qui a été conquise par le peuple de Dieu? C'est Jéricho. Et quand vous voyez Jéricho prise par le peuple de Dieu, selon les directives de Dieu, vous ferez une fois le tour de la ville et vous ferez ça pendant 7 jours. Mais le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et à un moment donné, vous crierez pour l'Éternel et pour Gédéon. Et les murs s'écrouleront. C'est ce qui s'est passé, les murs se sont écroulés. Mes amis, est-ce qu'il y a eu des morts? Non, aucun mort, zéro. Zéro. Vous ne le voyez pas dans la Bible. Ou montrez-moi votre Bible et faites-moi voir le passage. Alors, fort de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va continuer à conquérir. Et ils sont allés vers une deuxième ville, Haï. Aïe, aïe, aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Et ils ont dit, oh, c'est une ville moins importante que Jéricho. 2000 ou 3000 suffiront. C'est pas la peine d'envoyer toute l'armée. Alors, ils y sont allés. Mais quand ils sont revenus, ils sont revenus défaits, parce que les gens d'Haï les ont coursés, les ont rattrapés, et on peut lire qu'il y a eu 36 morts. Et là, Josué s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et s'est tenu devant Dieu. Et Dieu lui dit, mon peuple, je l'ai arrêté, parce qu'il y a un interdit au milieu de mon peuple. Attendez. L'interdit, c'était pas le peuple tout entier. Mais lorsque Dieu a dit, vous allez tirer au sort les tribus, vous allez tirer au sort les familles, et dans les familles, vous allez tirer au sort les personnes, ils sont tombés sur, à force de tirer au sort, sur un homme qui s'appelle Akan. Donne gloire à l'Éternel, qu'est-ce que tu as fait? Et Akan dit, j'ai vu le butin, j'ai pris et j'ai caché. Il avait désobéi à Dieu. Mais sa désobéissance a affecté la marche de tout le peuple de Dieu. Et simplement, on pourrait multiplier les choses, d'autres exemples encore que je pourrais vous partager dans l'avenir, mais pour vous dire qu'il est important que nous puissions revenir dans les voies de Dieu de tout notre cœur et de dire, Seigneur, je fais partie de ton corps, je vais prendre la Sainte Cène, mais je vais discerner quel est ton corps. On a parlé des chandeliers l'autre jour avec Anne. L'Église est représentée par un chandelier. Le chandelier représente l'Église. Et quand Dieu s'adresse aux 7 églises de l'Apocalypse, il ne s'adresse pas à des individus, il s'adresse à des chandeliers tout entiers. Ce que j'ai contre toi, je sais que tu es là, mais ce que j'ai contre toi, c'est que repens-toi, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai et je ferai ceci ou cela. Eh bien, mes amis, il est temps aussi que nous puissions relever le défi et de dire, Seigneur, je veux que ma vie soit une vie qui te soit consacrée, mais qui permette au corps de Christ local de se développer, de grandir, de devenir mature. Je veux aussi être un modèle pour les jeunes brebis qui vont venir s'ajouter au corps de Christ local, pour que je puisse être pour eux un exemple, un modèle, et que je puisse les entraîner, eux aussi, à obéir. Et le mot d'ordre, c'est ceci, écoute la parole de Dieu, et d'ailleurs dans l'Ancien Testament, vous verrez, Shema Israël, écoute la voix de ton Dieu, écoute ton Dieu, mais ne fais pas que l'écouter simplement, obéis à l'Éternel, parce qu'il y a dans ton cœur la crainte de son nom. Il est un Dieu grand, c'est pas le petit Jésus de la crèche, c'est un Dieu qui est grand. On n'a pas même l'idée de la grandeur de Dieu en s'imaginant qu'il peut être. Mais ce Dieu grand et formidable, un jour m'a regardé, m'a aimé, m'a sauvé, m'a libéré, a fait de moi son enfant. Et je peux dire ce matin, Abba, Père, quel privilège. Mais approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Recevons cette crainte de l'Éternel. Non pas cette peur, je répète, mais honorons celui qui est tout pour nous. Honorons celui qui veut manifester sa gloire et sa grâce au nom de Jésus. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Dieu prend soin de nous, il nous conduit. Alors ce matin, je m'approche de toi, Seigneur. On va prendre ce pain et ce vin, mais on va s'approcher en discernant le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps lui-même, le sang, le pain qui représente la chair, le sang qui a coulé par le vin, par le fruit de la vigne. Mais je veux aussi discerner le corps de Christ dans lequel je suis. En disant, Seigneur, je veux participer à la vie de ce corps et faire en sorte que ce corps soit en pleine santé. Alors sois béni, Seigneur. Père, nous sommes remplis de ton désir, Seigneur, Esprit de Dieu. Attire des hommes, des femmes à ton cœur, le cœur de Jésus. Et nous qui sommes là ce matin, disons ensemble, je me considère né de nouveau, mais je n'ai pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous découvrez que vous n'obéissez pas dans votre vie ? Que lorsque ça fait votre affaire, que lorsque ça vous convient, que lorsque vous voyez un bénéfice immédiat, et j'ai senti cette conviction de mon manque de sainte crainte de Dieu, et je veux répondre à ce message. Seigneur, merci pour ce mot repentance qui est tellement mal compris dans nos églises locales. Tellement de personnes voient la repentance comme si c'était se battre, se frayer, se frapper nous-mêmes. Mais merci Seigneur pour ce changement de direction, ce changement d'idée. Ma façon de voir, je l'échange avec la tienne, Seigneur. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour ta parole qui fait autorité dans ma vie, qui fait autorité dans nos vies, dans nos foyers, mais qui fait autorité au milieu de nous. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Alors je veux dire avec mes bien-aimés, à toi soit la gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous.
Je suis complètement bouleversée. Il y a quelque chose de vraiment... Merci Alain, mais il y a quelque chose d'énorme. Ce matin, vraiment tôt, un verset est venu avec insistance dans mon cœur. Et je l'ai écrit sur mon journal de bord parce que je n'avais pas écrit dessus depuis mi-avril, vous voyez, ça fait un grand moment. Le 10 mai 2026, ce matin, Seigneur, tu me touches par ce verset, Exode 33:11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Le même verset qu'Alain a pris. Et la suite, j'ai écrit « Connaissance intime de Dieu et de ses voies ». La suite du verset 11, c'est « Josué ne quittait pas la tente ». Josué ne quittait pas la tente. Josué ne quittait pas la tente. J'écris après psaume 25, 14, ce matin. L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître ses voies. Et j'ai écrit après Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. Et je ressens ce désir de Dieu qui dit, je cherche des amis. Je cherche des amis. Des enfants de mon peuple qui comprennent mes voix, la profondeur de mes voix. Église Josué, veux-tu être composée de... Voyez, une église, la Ménorah, tout ça, c'est l'église Philadelphie qui comprend les voies de Dieu. Les sept esprits de l'Éternel, ça, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de connaissance de l'Éternel, connaissance dans l'amitié, dans l'intimité. Moïse, Abraham, ami de Dieu. Il y a ce désir. Et c'est ça qui bouleverse. Seigneur, tu cherches des amis. Tu cherches des amis. Est-ce que nous, Église Josué ne quittait pas la tente. David a pris ses chants, que le feu brûle sur l'autel. que le feu brûle sur l'autel. Il y a cette interpellation à l'église Josué. Veux-tu être l'ami de Dieu ? Avec tout ce que ça implique. Voilà, merci Alain d'avoir. Mais voilà. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment là, tellement proche et tellement.
Merci. Et c'est un privilège incroyable de pouvoir dire Dieu m'appelle, m'invite à être son ami.